Eh bien, moi aussi, j'aimerais rendre un petit témoignage de la bonté de Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils. Il y a quelques semaines de cela, je devais aller chez le médecin. Les deux médecins qui travaillent en binôme, souvent, ont une salle d'attente hyper chargée. On attend très longtemps. C'est long, c'est difficile. Et puis ce jour-là, eh bien, il y avait peu de monde. Il y avait trois personnes qui attendaient, plus une qui était déjà vers le docteur dans le cabinet. Donc, on attendait les trois. Et puis donc, celle qui était avant moi, la troisième, est allée à son tour vers le cabinet. Et je me suis trouvé seul avec un homme d'origine musulmane. Et on a commencé à parler du Covid-19, de la souffrance que cela engendrait, les difficultés qu'avaient les gens, de l'horizon futur qui n'était pas très gai. Et puis d'un seul coup, il s'est mis à dire, mais c'est probablement Dieu qui permet tout cela pour parler aux êtres humains. Et on a parlé de choses et d'autres, de l'évangile, des fêtes musulmanes aussi, la fameuse fête de l'agneau, l'agneau qui est égorgé, dont il se partage aussi des morceaux. Et on a parlé donc de cette scène assez tragique d'Abraham, qui obéit à Dieu pour offrir en sacrifice son fils Isaac. Et pour eux, c'est très important pour les musulmans, ces histoires de l'Ancien Testament. Et puis on a parlé de la manière dont Dieu a pourvu, en permettant qu'un agneau soit là. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Dieu Jéhovah Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoira. Et alors, évidemment, il était tellement facile pour moi de faire la transition Dieu pourvoira en parlant d'un autre agneau, en parlant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de dire que c'est vraiment Jésus qui a été envoyé pour pourvoir notre salut. Et puis c'était vraiment ouvert, c'était exceptionnel, nous n'étions que deux dans la salle d'attente. Il n'y avait personne, sinon je ne me serais jamais permis de parler comme ça. Chose étonnante aussi, comme j'ai l'habitude de donner un calendrier à mon médecin, j'en avais pris deux. J'ai donné le calendrier à mon médecin et j'ai pu donner un calendrier à cet homme-là. Mais ça m'embêtait de lui donner le calendrier comme ça parce qu'il n'allait pas porter le calendrier après en entrant dans le cabinet. Alors j'ai dit, mais quelle est la couleur de votre voiture ? Il m'a dit, elle est bleue, elle est là. Écoutez, je vais accrocher tout simplement sur la vitre le calendrier. Calendrier biblique, bonne semence, bonne lecture. Je ne sais pas d'où il est, ni où il va. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que dans cette période de confinement, il y a une maîtrise incroyable de Dieu. Dans les moindres détails. Si j'avais été vers le médecin une demi-heure après, impossible. Dieu a dirigé de telle manière pour que je sois là à la minute près. Une maîtrise parfaite de Dieu. Deuxième chose, comme le disait si bien notre sœur Élisabeth, il y a des opportunités de parler l'Évangile pendant ce confinement. Des opportunités de contact. La dernière fois, il n'y a pas très longtemps, j'entre dans mon village et je connais très bien la personne, noix. Elle avait des noix à vendre. Bon, nous aimons beaucoup les noix, Elisabeth et moi-même. Eh bien, nous avons demandé s'il voulait bien nous vendre des noix, chose qui a été faite. On a eu l'opportunité. Peut-être pas parler directement de l'Évangile et du Seigneur, mais de parler de choses et d'autres, d'avoir un contact. Je suis convaincu que pendant cette période de confinement, si nous disons à Dieu toujours, donne-moi aujourd'hui une porte ouverte, une occasion, peut-être pas de parler de l'Évangile, mais de manifester de l'amour en Jésus, Dieu le fait. Et ce qui me frappe, c'est, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est l'immense souveraineté, précision de Dieu. Vous êtes d'accord? Pour que nous puissions agir en son nom. Ce qu'il y a, c'est que nous devons être disponibles à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit, au temps de Dieu. Et des choses se passent. Et je voudrais encore parler de ce Dieu merveilleux, celui qui est la porte, parler de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, on va lire le texte tout à l'heure, il dit une chose incroyable. Dans la suite de ces « je suis la porte ». Il ne dit pas « je suis une des portes par lesquelles vous pouvez être sauvé, par laquelle vous pouvez être sauvé ». Non, il y a un exclusivisme. « Je suis la porte ». Comme on a vu d'ailleurs, « je suis tout simplement le pain de vie ». « Je suis la lumière ». On l'a vu les dernières fois. C'est prétentieux quand même de dire comme ça, « je suis le, la ». Alors, on pourrait se poser la question, et beaucoup de personnes se posent la question par rapport à ces absolus « je suis » de Jésus. Est-ce que ce qu'il dit est vraiment juste? S'il n'est pas ce qu'il dit et qu'il le sait, c'est un imposteur. S'il n'est pas ce qu'il dit, ne le sait pas. Alors c'est un fou. Après tout, il y a des gens qui se prennent encore pour Napoléon. Mais il y a une troisième possibilité d'aborder cette question. Il est bien ce qu'il dit et il est vraiment le Fils de Dieu. Je suis. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un des « je suis » de Jésus dans la suite de tous ceux que nous avons déjà étudiés. Le Seigneur nous dit « c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » On va prier, puis on va lire le texte dans l'évangile de Jean qui va apparaître tout à l'heure, au chapitre 10, quelques versets seulement. Seigneur, tu es formidable. Et puis en plus, tu nous as dépeint avec toutes ces images, avec toutes ces illustrations qui nous montrent un aspect si grandiose de ce que tu es. Et pourtant, nous trouvons tant de ces « je suis », tant d'aspects, tant de couleurs. Nous t'adorons. Tu veux nous aider ce matin à comprendre ce que cela veut dire et ce que cela implique pour nous quand tu nous déclares « je suis la porte ». Amen. Ouvre nos Bibles, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Je vais vous lire les quelques versets qui vont apparaître. Jean 10, les premiers versets, nous lisons les versets 1 à 9. Je lis dans la version Bible du Semeur. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom. Je vais un peu vite. C'est moi qui suis la porte. Maintenant, je vais jusqu'au verset 9. C'est moi qui suis la porte. Mais ces brebis, nous est-il dit auparavant au verset 4, quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, eh bien, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Parce que sa voix leur est familière, jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors, il reprit vraiment, « Je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutées. C'est moi, il insiste, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement et trouvera de quoi se nourrir. » Jusqu'ici, la lecture, c'est suffisant. Revenons vraiment à cette déclaration de Jésus, « Je suis la porte ». Je voudrais souligner quatre points. Tout d'abord, dans un premier temps, nous découvrons dans ce texte que la seule porte d'entrée, c'est Jésus. Et nous découvrons aussi que Jésus en est le gardien. Vous savez, Jésus en est le gardien, peut-être pense-t-il à ces parcs ou ces enclos du Moyen-Orient qui étaient confectionnés avec des pierres sèches, avec des murs tout autour, et une seule porte grande ouverte. Et ces bergers du Moyen-Orient, il arrivait quelquefois que c'était eux qui se couchaient à l'entrée de la porte, comme un gardien. Et Jésus peut-être pense à cela quand il dit « Je suis la seule porte d'entrée et le gardien de la porte. » Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est important de nous le rappeler. En Jésus, la porte, il y a par ce merveilleux gardiennage et par cette merveilleuse et unique porte d'entrée, de la sécurité. Nous sommes en sécurité. On le voit, ces deux aspects qui sont bien soulignés dans les versets qui ont été lus. Je suis la porte par où passent les brebis. Celui qui entre par la porte, il est aussi le berger des brebis. Lui-même en tant que berger, il entre par la porte. Et ses brebis aussi passent par cette porte. Eh bien, ça me fait penser à un autre texte qui va apparaître par rapport à cette notion de sécurité et de gardiennage. Regardez, le psaume 121, quelques versets. Il s'agit du psaume du voyageur. Non jamais, il ne dort jamais, il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est ton gardien, comme une ombre qui te protège. Et cette notion de gardiennage revient, et de protection, la nuit comme le jour. Un gardien. Nous avons besoin de Jésus, notre gardien, de Jésus qui passe par cette seule porte qu'il a ouverte pour nous. Dans ces temps troublés, mais je trouve que cela nous met en sécurité. Les enfants, les jeunes, vous aussi peut-être, vous devez être agressé quelque part, au collège, à l'école, au lycée. Jésus est la seule porte. Jésus est le gardien. Nous pouvons nous trouver à l'abri. Nous pouvons être tranquilles et en sécurité parce que lui-même a passé par cette porte et nous pouvons le suivre. Et plus que cela, il est le gardien de la porte. Il veille sur nous. Vous vous rendez compte, le psaume 121, jamais il ne sommeille ni ne dort. 24 heures. Sur 24, il est là. Moi, ça me subjugue de savoir que Dieu a tant de travail pour être le Dieu des milliards d'êtres humains, pour ses enfants en particulier, et que moi, tout petit, petit Luxa d'orge, spécialement, il ne dort pas, il me garde, il s'occupe de moi. C'est subjugant. Et c'est rassurant. La deuxième chose que je voudrais communiquer par rapport à cette question de la porte, c'est que Jésus est la porte du salut. Notre monde actuel cherche le salut. Dans cette crise, dans cette pandémie, on cherche le salut. Et on dépense des milliards de dollars, ce qui est légitime, ou d'euros, pour que des laboratoires nous trouvent ce vaccin qui va nous guérir, ou nous prémunir plutôt, de ce coronavirus. Les êtres humains tablent uniquement sur ces découvertes scientifiques. Et naturellement que nous en bénéficions. Nous sommes contents d'être vaccinés contre la grippe et plein d'autres vaccins aussi. Mais c'est tout. Le salut. Or, c'est les êtres humains. Vous pouvez comprendre qu'il y a les vaccins, mais qu'il y a surtout Jésus, la porte du salut. Le sauveur. Celui qui peut intervenir, qui peut changer les vies. Et notre souhait, effectivement, c'est que dans cette période, nous puissions, conduits par son esprit, parler à l'un ou à l'autre, à des gens avec lesquels nous n'en avons jamais parlé, de cette seule porte, porte du salut. Oui, il est beau, ce texte, qui parle de Jésus, la seule porte, qui est suffisante. Jésus est la porte qui nous mène à sa personne et à la personne du Dieu. Il a frayé cette porte dans des conditions épouvantables en mourant sur cette croix infâme. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, va nous apparaître maintenant et nous précise ceci. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, au travers du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. C'est pour cela qu'il est la porte. Il n'y avait pas de porte entre le lieu saint et le lieu très saint dans le tabernacle. Il n'y avait pas de passage possible pour tout ce personnel de sacrificateur qui se trouvait dans le lieu saint, sauf une fois que le rideau pouvait être traversé. Mais une fois par mois, par an, pardon, par le grand prêtre. Et quand Jésus a dit « Tout est accompli sur la croix de Golgotha, Jésus la porte », il y a eu quelque chose d'assez phénoménal qui nous est raconté dans l'évangile de Matthieu. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux. Imaginez un tout petit peu la tête que pouvaient faire les simples sacrificateurs dans le lieu saint, il voyait une chose qu'il n'avait jamais vue jusqu'ici. Il n'avait jamais vu. Il voyait les anges dans le lieu saint. Il voyait l'arche de l'Alliance. Au moment où Jésus a crié sur la croix, tout est accompli. Le rideau s'est déchiré. C'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer qu'il est la porte du salut. Réfléchissons à cela. En troisième lieu, nous ajouterions, d'après le texte que nous avons lu tout à l'heure, que Jésus est une porte qui nous conduit à la liberté. Rappelez, premier point, sécurité. Jésus, porte du salut, est une porte qui conduit à la liberté. Le texte de l'évangile de Jean, qui a été lu tout à l'heure, nous dit, au sujet des brebis, « Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. » Ben c'est nous. Voilà que nous sommes placés par la conversion, par la suivance de Jésus, par le fait que nous sommes ses disciples. Je vous le dis, les jeunes, libres, libres, libres. Il y a toute une latitude, on peut aller et venir librement. C'est formidable. Oh, il y a eu la chèvre de M. Seguin, qui elle aussi, parce qu'elle se trouvait enfermée. M. Seguin ne voulait pas qu'elle s'en aille. Elle aurait bien voulu manger l'herbe fleurie, appétissante sur la montagne. Et un jour, elle est partie, elle a pris sa liberté, une fausse liberté. Vous connaissez la suite? Oh, elle était vaillante, la chèvre de M. Seguin, après s'être battue contre le loup toute la nuit. Ses forces étaient épuisées et elle fut mangée par le loup. Tandis que vraiment le disciple de Jésus-Christ, qui connaît Jésus comme la porte, eh bien, ce n'est pas une porte hermétiquement fermée. Il peut aller et venir. Ah, c'est la porte de la liberté. Et dans un autre texte de l'évangile de Jean, au chapitre 8, nous lisons quelque chose qui est formidable. « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement des hommes libres. » Nous sommes libres. Libres à l'égard du péché, nous n'avons plus besoin de péché. Libres à l'égard de cette vieille nature, nous n'avons plus besoin d'obéir à ses impulsions. Libres à l'égard de l'ennemi de nos âmes, nous pouvons au nom de Jésus dénoncer ses manœuvres et proclamer la victoire du Seigneur. Ce temps de confinement peut être pour nous un temps de plus en plus de liberté intérieure. De liberté spirituelle, parce que nous avons choisi d'entrer par la porte à la suite de Jésus, libre. Et puis voilà que va apparaître un autre texte qui parle toujours de porte. Vraiment, je reste toujours fixé sur ce thème, la porte. Il se trouve celui-ci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Vous l'avez? Il nous dit ceci. Ce sont les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte. Étroite est la porte et difficile le sentier qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux, ceux qui la trouvent. Oh, c'est désolant. Voilà que le Seigneur Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu que cette porte qu'il nous a ouverte, dont il est le chemin, elle est étroite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est vrai, pour connaître le Seigneur Jésus, peut-être faut-il nous baisser, peut-être faut-il nous serrer, peut-être faut-il nous humilier, peut-être faut-il confesser nos péchés, peut-être faut-il nous repentir pour passer par cette porte. Et peut-être faut-il décider de laisser certaines idoles qui accaparaient notre vie, parce que désormais nous suivons notre Sauveur, notre Christ, notre Dieu. La porte est étroite, pas beaucoup qui passent par là, n'est-ce pas? Par contre, cette autre porte, cet autre chemin qui conduit à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est désolant. Et on a l'occasion de dire qu'il y a une autre porte possible à ceux-là, celle ouverte, offerte, personnifiée par Jésus, qui a dit « Je suis la porte ». Je ne sais pas si vous êtes tous disciples de Jésus-Christ. En tout cas, il est certain que nous pouvons, en entrant par la porte qu'est Jésus, recevoir un cœur nouveau, recevoir une nouvelle identité en Christ. Et nous pouvons vraiment passer par cette porte et suivre Jésus. Il nous rend capables d'entrer par cette porte au travers d'un cœur nouveau, au travers tout simplement d'une transplantation cardiaque spirituelle, selon la prophétie qui avait été faite par Ézéchiel. Nous allons la relire. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Matthieu, merci beaucoup. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quel cœur avez-vous ? Un cœur qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Un cœur qui aime comme Jésus-Christ. Un cœur tellement patient, tellement compatissant. Alors oui, nous pouvons franchir cette porte à la suite de Jésus et c'est possible à cause de ce nouveau cœur. Ce n'est pas impossible, mais c'est possible pour celui qui s'approche de Jésus, qui est la porte. Vous savez, des fois, il y a des portes quand on veut entrer dans des banques ou quand on veut entrer dans des magasins. Il n'y a pas besoin de les pousser. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas grave. Elles s'ouvrent toutes seules. D'ailleurs, à l'hôpital aussi, hein, il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules. Mais encore faut-il que nous nous approchions de cette porte. Il y a une distance environ de 1 mètre pour que la caméra de la porte vous voit arriver. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Moi, je suis toujours subjugué par ces portes qui s'ouvrent toutes seules, mais à condition qu'on veuille bien aller vers cette porte. Si nous restons à 3 mètres ou 4 mètres de cette porte, elle ne va pas s'ouvrir. C'est pareil avec le Seigneur. Celui qui s'approche du Seigneur, la porte s'ouvre toute seule. Il est là pour nous accueillir, nous embrasser, nous changer, mettre un cœur nouveau. Ayant ce cœur nouveau, nous pouvons vraiment entrer par la porte étroite et suivre Jésus. Que demande le peuple ? Enfin, je termine encore par une histoire de porte. Ça sera ma conclusion. Ce texte, nous le trouvons dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 21. Je trouve que quelquefois, ce texte est utilisé mal à propos. Il n'y a pas une bonne exégèse dans l'utilisation de ce texte. On va souvent y faire référence quand il s'agit d'évangéliser et d'inviter les gens non convertis à recevoir Jésus. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regardez l'Apocalypse. C'est une parole adressée à une église en perdition. Il y a des chrétiens là-dedans. C'est l'église de Laodicée. Le Seigneur fait un constat terrible par rapport à ce terrible, c'est qu'ils ne sont ni froids ni bouillants. Et le constat qu'il fait aussi, c'est que ils sont tièdes. C'est tellement tragique que cette tiédeur va un jour permettre au Seigneur d'enlever cette église comme on enlève le chandelier. Mais ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, les gens de Laodicée. Lisons-le. Il est connu par cœur. Vous savez que j'encourage beaucoup dans nos études bibliques à apprendre des versets bibliques. Et celui-là, vous le connaissez. Écoutons-le bien. Voilà. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Dîner, souper, inviter quelqu'un, eh bien, c'est tout simplement vivre une communion, une relation profonde avec cette personne. Et c'est le grand problème de l'église de Laodicée, elle avait perdu cette communion, ce feu pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus était obligé de frapper à la porte parce qu'il est plein de patience, de compassion et d'amour. Mais c'était des chrétiens. Eh bien, peut-être que Jésus a encore besoin de frapper à la porte de notre cœur ce matin. Peut-être que petit à petit, nous avons laissé de moins en moins de place au Seigneur dans notre maison, la maison de notre cœur. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Quand vous recevez des fois le facteur qui amène un colis, nous, ça nous arrive assez souvent. Vous lui ouvrez la porte, il va entrer sous le toit de votre maison, vous laissez le colis, mais il n'ira pas plus loin que le vestibule de votre maison. D'accord ? Si vous voulez avoir à votre table des amis, des frères et des sœurs en Christ, ils vont entrer aussi sous votre toit, sous mon toit, mais on ne va quand même pas les laisser debout dans le vestibule. Ils vont entrer dans la salle à manger. Nous allons manger ensemble, nous allons souper, nous allons vivre une communion, une chaleur humaine avec eux. Mais ce n'est pas absolument certain que je vais leur faire visiter quand même ma chambre à coucher. Allons de plus en plus loin. Si c'est notre conjoint qui vit aussi sous le toit de la maison, ou nous-mêmes, alors nous avons le droit d'être dans tous les compartiments de notre maison, j'allais dire de la cave au grenier. Et souvent notre conjoint, enfin je parle en tant qu'homme, elle sait exactement où se trouvent toutes les choses, nous les maris, il faut toujours le demander, où est-ce que tu as mis ces choses ? Elle connaît tout ce qu'il y a dans le fond de chacun des trottoirs, des tiroirs, pardon, de notre maison. Quel était le problème des chrétiens de Laodicée ? C'est petit à petit, ils avaient reculé le Seigneur Jésus pour le laisser sur le vestibule. Le Seigneur, il est merveilleux. Il n'a pas donné un coup de pied pour s'imposer la salle à manger, pour s'imposer dans la chambre, pour s'imposer au grenier. Non, il frappe à la porte et il attend une initiative de notre part, que nous-mêmes, nous ouvrions la porte. Jésus est la porte. Et Jésus, la porte que nous avons donc définie tout à l'heure, frappe aussi à la porte de nos cœurs, même si nous sommes chrétiens depuis 50 ans. Y a-t-il des toutes petites portes où Jésus n'aurait pas le droit de regard, n'aurait rien à dire ? Non. Nous voulons décider que désormais, Jésus, tu as toute la place en tous les compartiments, dans toutes les pièces, dans tous les endroits, dans tous mes tiroirs. Sur mon smartphone, tiens, tu as ton mot à dire, parce que je regarde. Sur Internet, ah ben, tu as ton mot aussi à dire. C'est toi qui règnes sur tout. C'est la clé de la vie, c'est la clé du salut, dans le salut pas uniquement dans le sens initial du terme, mais du salut de tous les jours. Voilà ce que je voulais partager. Très simple. Jésus nous ouvre la porte par son sacrifice offert sur la croix. C'est la porte par laquelle nous entrons. D'ailleurs, je n'ai pas évoqué ce point, mais tous ceux qui sont des voleurs et des brigands, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne passent pas par la porte unique. Ils sautent par-dessus le mur pour faire du mal. Ça peut être des faux prophètes, ça peut être des mauvaises personnes. Jésus, gardien, celui qui ouvre la porte, qui est la porte, c'est la sécurité. Nous aimons la sécurité. C'est aussi la voie du salut. Pas seulement le salut dans le sens initial, un jour nous acceptons le salut, hein, mais le salut de tous les jours, on a besoin d'être sauvé dans beaucoup de domaines, hein, des accidents de voiture, de tout, hein. Jésus, c'est la porte de la liberté, c'est la porte. Bien sûr, il nous dit, étroite est cette porte. Et il nous dit aussi, peut-être il le dit à quelqu'un parmi vous ce matin, parmi nous, qu'il frappe à la porte pour avoir toute la place, pour qu'il soit à l'aise. C'est merveilleux. Je suis convaincu que dans cette période difficile, il nous faut nous apprendre de plus en plus à laisser toute la place à Jésus, à vivre avec lui de plus en plus cette communion. Moi aussi, j'ai regardé beaucoup de cultes dans ces grandes églises, MLK, l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, l'église à Bordeaux, Momentum, c'est ça? Momentum. On est ensemble. Je regardais aussi. On est ensemble. J'ai été frappé en écoutant ce témoignage qu'ils reviennent toujours à la même chose. Cultiver cette communion avec le Seigneur. Dans la découverte beaucoup plus grande de sa grâce et de son amour. Et moi, je dis Amen avec ça. Eh bien, il faut que je dise Amen aussi. Le temps passe et peut-être quelqu'un dans son... Peut-être on peut rester quelques minutes à nous poser cette question dans notre cœur. Jésus, as-tu toute la place dans ma maison, dans mon cœur? Y a-t-il des domaines où je dis, ah non, ça tu t'en occupes pas. Dans mon emploi du temps, as-tu toute la place? Restons quelques minutes dans le silence et réfléchissons à cela. Merci Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Tu nous as rappelé que tu es la porte. Oh, nous t'adorons. Te bénissons. Tu es la seule porte. Il y a quelque chose d'exclusif, c'est vrai, dans cette déclaration. Et nous sommes heureux. Nous sommes libres avec toi. Et continue de faire ton œuvre en nous. Que nous prenions et reprenions cette porte, toujours. Merci que tu aies béni chacun d'entre nous. Dans ce sens. Amen.